Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Nous sommes au lieu unique, scène nationale de Nantes, pour le rendez-vous annuel du mois de septembre que sont les Géopolitiques de Nantes, une initiative mise sur pied conjointement avec l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Regard sur la politique à l'égard de l'Iran à quelques semaines de l'élection américaine. En 2016, Donald Trump, candidat, avait annoncé qu'une fois président, il ferait sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, signé en 2015, ce qu'il fit, se disant par ailleurs assuré de pouvoir négocier un meilleur accord qui ne compromettrait pas autant les intérêts des États-Unis et qui couvrirait un éventail plus large de sujets qui posent question au Moyen-Orient. Quatre ans plus tard, force est de constater qu'aucun nouvel accord n'a émergé, que la tension est très forte entre Téhéran et Washington et que la guerre n'a jamais été loin entre les deux pays. Tension également entre les États-Unis et les pays européens, ces derniers qui, tout en étant d'accord avec les objectifs de limitation des activités de missiles balistiques et d'un retour aux engagements nucléaires du JCPOA, ne partagent pas l'approche américaine qui les a éloignés de leur souhait de développer des liens économiques avec l'Iran. Aux États-Unis, la politique à l'égard de la République islamique est l'une des questions qui divise le plus démocrates et républicains en cette période électorale. Contenir l'activité nucléaire iranienne est une priorité pour les deux parties, mais se pose la question du traitement des milices soutenues par l'Iran qui sont une menace pour la stabilité au Moyen-Orient et un danger pour les intérêts sécuritaires de l'Amérique et de ses alliés. Les difficultés que traverse l'économie iranienne ne pourront qu'inciter Téhéran à une négociation. Reste à savoir ce qui peut être négociable pour Téhéran entre l'influence régionale et le balistique. À 10 mois de l'élection présidentielle en Iran, le scrutin américain y est aussi un enjeu de politique intérieure. Regard avec nos invités, Amélie Myriam Chély, sociologue, spécialiste de l'Iran et des islams politiques, chercheuse associée au CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Bonjour.
Bonjour.
Azadeh Kian, professeure de sociologie et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes, le CREDEF de l'Université de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et Georges Malbruno, grand reporter pour le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
Autour de quoi tournent les débats aujourd'hui en Iran? Dans quelle mesure l'élection américaine est-elle un enjeu de politique intérieure? Les Iraniens ont, semble-t-il, faire leur choix. Joe Biden, s'il est élu, Joe Biden pourrait attendre les élections présidentielles iraniennes avant d'entamer des négociations. Pendant ce temps, Trump est convaincu de l'efficacité de son approche. Comment les Iraniens voient-ils le 3 novembre approcher? Amélie Myriam Chély.
Eh bien, déjà, replongeons-nous un tout petit peu dans les précédentes élections américaines qui opposaient donc Donald Trump à Hillary Clinton. À l'époque déjà, les Iraniens avaient cette petite boutade. Hillary Clinton, c'est l'Amérique maquillée et Donald Trump, c'est l'Amérique démaquillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà pour position de dire que Donald Trump était beaucoup plus dans la visibilité de certaines positions néoconservatrices, même s'il n'est pas néoconservateur de bout en bout et sur tous les sujets, tandis que le clan opposé faisait plus figure de sous-marin qui a un affichage d'équilibre, ce qui n'était pas faux pour ce qui concerne, par exemple, Barack Obama, mais qui en même temps continue de faire peser le poids d'un certain nombre de sanctions en sous-marin sans les rendre visibles, tout en contribuant par exemple à cette fameuse fuite des cerveaux. C'est sous Barack Obama qu'on a le plus facilité le départ de cerveaux iraniens sur le pays, chose qui n'avait à l'époque pas du tout plu aux gardiens de la Révolution, et s'en était d'ailleurs suivie une vague de hacking de données universitaires de plusieurs universités américaines et étrangères plus généralement. Ici, pour ce qui concerne cette élection, donc rappelons les positions. S'il s'agit de Joe Biden, on reviendrait sur ce retrait unilatéral de Trump pour revenir donc au JCPOA, au plan d'action conjoint sur le nucléaire, tandis que si on se situe dans la perspective d'une réélection de Trump, on resterait fermement dans cet accord qui aura été déchiré comme il en avait été question lors de sa campagne électorale. Mais il est tout à croire que l'anti-iranisme exacerbé de Donald Trump pourrait s'en trouver apaisé. Et ça, c'est pour une raison qui est absolument fondamentale, c'est que Donald Trump avait montré qu'il avait choisi la voie du déséquilibre en mettant tout du côté de l'opposant, de l'ennemi viscéral de l'Iran, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et que là, voyant que l'Arabie Saoudite ne lui est pas parfaitement fidèle, en faisant par exemple des accords concernant du matériel nucléaire avec les Chinois, eh bien, on se rend compte que Donald Trump pourrait éventuellement assouplir sa politique anti-iranienne. On a vu par exemple un autre élément qui est très intéressant, c'est que il veut faire notamment du Qatar un allié de l'OTAN. Or, on sait les animosités qui existent entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, toujours pour lui témoigner finalement qu'il a bien pris en considération son infidélité.
Vous écoutez RFI, Marie-France Attin.
Alors, peut-être affaiblissement de la politique de Donald Trump en cas de deuxième mandat, parce qu'il est vrai que la question de sa réélection ne se posera plus. On le développera un petit peu plus loin dans l'émission. Azad Ekian, sur cet enjeu de politique intérieure en Iran que constitue l'élection américaine du 3 novembre prochain.
Écoutez, je pense que l'enjeu est surtout pour le camp dit modéré, par exemple Rouhani, Zarif, etc., le gouvernement actuel, parce que effectivement, si Biden est élu, visiblement les États-Unis vont réintégrer l'accord sur le nucléaire. Les Iraniens modérés s'attendent à avoir des retombées positives de cet accord sur le nucléaire, c'est-à-dire les investissements, la levée des sanctions états-uniennes, etc. En revanche, je ne suis pas sûre que l'aile dure du régime profiterait de l'élection de Biden, puisque les gardiens de la révolution, tout un tas de fondations, les ultra-conservateurs ont profité beaucoup économiquement et aussi militairement et stratégiquement de ces sanctions états-uniennes, parce que au plan économique, maintenant tout est quasiment aux mains des gardiens de la révolution, toutes les concessions à l'intérieur du pays, en même temps les décisions qui sont prises quant à la politique étrangère régionale de l'Iran leçon, on le sait, surtout par les gardiens de la révolution ou ceux qui sont proches des gardiens au sein du pouvoir. Donc, en quoi est-ce que les gardiens de la révolution, par exemple, ou les conservateurs ultra profiteraient la réintégration des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire? Donc, je pense que c'est un enjeu politique majeur entre surtout les ultras et, les plus modérés. Mais on sait que pour le gouvernement actuel, il mise sur l'élection de Joe Biden. Mmh. En même temps, c'est intéressant parce qu'on constate, mais ça, Georges Malbruno le sait mieux que moi, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, les attaques des groupes proches de l'Iran en Irak contre les intérêts américains ont baissé, justement pour ne pas trop, si vous voulez, provoquer Trump et donc ne pas impacter davantage l'élection présidentielle aux États-Unis. Donc en Iran, je pense qu'il y a deux camps principaux, si vous voulez, qui n'ont pas les mêmes intérêts, bien évidemment, mais pour le moment, ils sont dans l'attentisme. Mmh. Mais il y aura indubitablement des conséquences sur l'échiquier politique iranien selon que c'est Biden qui se fera élire ou Trump.
Alors, Georges Malbruno, je me tourne vers vous. Donc, baisse de l'agressivité iranienne en Irak. Juste avant cela, on sait que Joe Biden préfère la diplomatie internationale. La question qui se pose est tout de même de savoir si Biden, s'il est élu le 3 novembre, pourra rejoindre le JCPOA. Parce que l'une des questions qui se pose est de savoir aussi est-ce que Trump ne va pas tout faire précisément avant l'élection pour qu'il soit impossible aux États-Unis de réintégrer ce JCPOA?
Oui, d'où ces velléités de rétablir les sanctions. Et même si Joe Biden est élu, ce qui satisfera et satisferait évidemment Rouhani, Zarif, et même, je pense, le guide qui clairement joue l'attentisme, parce que on a bien vu que depuis l'assassinat de Qassem Soleimani, il n'y a pas eu de riposte iranienne, que l'Iran est toujours dans ce qu'il appelle une patience stratégique. Et d'après ce qu'on sait, en fait, les seules ripostes qui ont été autorisées, c'était les opérations de hacking aux États-Unis ou ailleurs. Donc, voilà. Rouhani et probablement même le guide, sachant quand même que une victoire de Trump serait très dangereuse parce que l'économie iranienne est exsangue et encore une fois l'Iran ne sait pas véritablement si avec un Trump réélu le régime change ne serait pas de nouveau sur la table. Donc on préfère Biden. Simplement, Joe Biden, il a fait un article sur le site internet de CNN en disant effectivement « Je souhaite redonner la parole à la diplomatie, je souhaite revenir au JCPOA, à l'accord nucléaire 2015. » En Iran, Hassan Rouhani a dit « Moi aussi, je veux revenir au JCPOA, mais le retour au JCPOA n'est pas vu de la même manière » à Téhéran et à Washington. À Washington, où il y a quand même le Congrès qui reste toujours foncièrement anti-iranien, on rappelle, poussé en cela d'ailleurs par les Européens, que on reviendrait au JCPOA, mais il faut un JCPOA élargi qui engloberait, vous en avez parlé tout à l'heure, l'aspect missile balistique et influence régionale. À Téhéran, je pense qu'on serait prêt à discuter influence régionale. Probablement, Yémen, ça mange pas de pain. Les Iraniens sont en position de force. Ailleurs, probablement moins. Mais en revanche, l'aspect missile balistique pour les Iraniens, c'est une ligne rouge. Ils n'accepteront jamais de négocier à la baisse ce dossier-là. Donc, ça risque d'être assez tendu. Et puis, quelle sera la marge de manœuvre que donnerait Ali Khamenei, le guide suprême, à son président Hassan Rouhani, si jamais Biden était élu, sachant que l'élection présidentielle iranienne est en juin. Donc il va y avoir une course contre la montre. Est-ce qu'on aura suffisamment de temps pour pouvoir renouer ? On dit aux États-Unis que John Kerry serait l'homme qui reprendrait langue avec l'Iran, ce qui serait très bien. C'est lui qui avait négocié le JCPOA côté américain. Donc il y a quand même encore beaucoup de points d'interrogation. Mais c'est vrai que pour l'Iran qui acculait une perspective d'avoir Joe Biden comme nouveau président des États-Unis, l'effet espéré que après cette période de tension maximale, eh bien, on pourrait s'acheminer vers une reprise des négociations pour que l'Iran puisse réexporter son pétrole. C'est quand même l'objectif, un des objectifs prioritaires. Et est-ce que Biden, lui, conserverait un petit peu ce qui a été la priorité américaine, à savoir une réduction des troupes américaines dans la région, ce qui est très bien pour l'Iran, puisque c'est l'objectif stratégique de l'Iran, c'est de se retrouver avec de moins en moins de troupes américaines, notamment en Irak. On a vu que Trump a commencé de réduire les effectifs. Donc voilà, on a encore plein d'interrogations parce que il y a les pays du Golfe qui vont, si jamais c'est Joe Biden, qui vont pousser justement à un durcissement du JCPOA. Il y a l'Europe qui est derrière. Donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de points d'interrogation.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, on a évoqué la question des missiles balistiques. Il y a aussi comment cet accord sur le nucléaire iranien, quelle valeur a-t-il aujourd'hui quand on sait, je me tourne vers vous Azadekian, que selon un récent rapport de l'AIEA, l'Iran, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a accumulé 2105 kg d'uranium enrichi, soit 10 fois plus que le plafond autorisé dans le cadre de l'accord de Vienne qui en autorise seulement 300 kilos.
Bah, tout à fait. C'est-à-dire, si vous regardez le degré d'enrichissement de cet uranium, ça ne dépasse pas tant pourcentage autorisé par l'accord. Hein. C'est-à-dire, ils enrichissent 4,1 au lieu de 3,7 autorisés. Premièrement, donc on est vraiment très loin de l'enrichissement à 99% pour l'arme nucléaire. Mais en même temps, le gouvernement iranien avait annoncé prendre des mesures si les autres parties de l'accord ne respectent pas les retombées positives pour l'Iran de l'accord, c'est-à-dire la levée des sanctions états-uniennes, c'est-à-dire les investissements donc européens et américains en Iran, etc. Donc ils ont augmenté, si vous voulez, l'enrichissement de l'uranium et la réserve de l'uranium enrichi, mais ils l'ont annoncé encore récemment que les États-Unis réintégraient l'accord sur le nucléaire, l'Iran allait revenir sur cette décision et allait respecter à terme et d'ailleurs à la lettre l'accord. À cela s'ajoute le fait que les inspecteurs de l'AEOA, et d'ailleurs le directeur de l'AEOA était en Iran récemment, donc les sites nucléaires iraniens sont ouverts à l'inspection, il ne faut pas oublier ça. Et donc on n'a aucune preuve quant à la velléité de l'Iran d'aller vers l'arme nucléaire. D'ailleurs, quel intérêt à le faire. Et effectivement, les Iraniens essayent de dire, si vous ne respectez pas, si vous continuez à mettre pression sur nous à travers des sanctions états-uniennes, ben, nous aussi, on a des moyens. Mais je pense que, pour revenir à ce que disait Georges Malbrouno tout à l'heure, c'est pas tant le nucléaire iranien. On sait que les Iraniens ne veulent pas d'armes nucléaires. Je pense que là où le dossier vraiment est très sensible, c'est sur les missiles balistiques. C'est pas sur le nucléaire, c'est sur les missiles balistiques, et ils n'acceptent pas de faire de concessions sur les missiles balistiques. Donc, si les États-Unis ou l'Europe, par exemple, souhaitent renégocier sur cette capacité de défense du régime islamique d'Iran, ils vont assez rapidement heurter à un refus catégorique des Iraniens. En revanche, sur le Yémen, parce que le Yémen n'a jamais été un site important pour l'Iran, sur le nucléaire, les Iraniens peuvent revenir sur l'accord à la lettre, et voire même diminuer leur influence en Irak, vu que les Irakiens ne voient pas d'un bon oeil l'emprise iranienne sur l'Irak. D'ailleurs, avec le nouveau Premier ministre irakien, on voit qu'il y a déjà des limites imposées à l'interventionnisme iranien en Irak. Donc, il y aura des dossiers à négocier. En revanche, les Iraniens, pour ce qui concerne les missiles balistiques, ils restent sur leur position.
Amélie Mehramchili.
Effectivement, sur ces questions-là, on se rend bien compte que Donald Trump veut tout simplement renverser la table. Les arguments qui avaient été invoqués par Donald Trump pour faire de ce deal a very, very bad deal, c'était le fait qu'il soit limité dans le temps. En fait, la véritable question, il me semble qu'elle est de deux ordres. La première chose, c'est que il y a eu la guerre en Syrie. Et pendant la guerre en Syrie, eh bien, l'Iran est peut-être sorti grand vainqueur, puisque justement la partie qu'il défendait est restée en place, à savoir Bachar al-Assad. Et surtout, ça pouvait permettre à l'Iran d'avoir un accès à la Méditerranée, ce qui est inconcevable pour l'administration américaine, d'autant plus que ça fait quand même deux États avec lesquels les États-Unis ne s'entendent pas bien qui ont un accès à la Méditerranée par la Syrie avec Tartous niveau russe. Hein, ça, c'est la première chose. Ensuite, suite au retrait unilatéral de Donald Trump, quand il y a eu la rencontre entre Emmanuel Macron et Trump, finalement, les deux n'étaient pas du tout dans une position si divergente. C'est-à-dire que Emmanuel Macron admettait aussi qu'il fallait encadrer la question du développement du programme de missiles balistiques et les questions liées aux aides apportées à des groupes figurant sur la liste des organisations terroristes. Simplement, le modus operandi devait différer. C'est-à-dire que Donald Trump, lui, voulait mettre un terme à cet accord pour éventuellement plus tard en faire un autre qui pouvait englober ces fameuses questions qui avaient été laissées de côté. Tandis qu'Emmanuel Macron, lui, entendait conserver l'accord en l'état et ensuite s'élancer vers d'autres procédures, d'autres accords concernant le développement du programme de missiles balistiques ainsi que l'aide aux milices. Donc, effectivement, là-dessus, ils sont un peu sur la même longueur d'onde, sachant qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, l'idéologie de la République islamique ne fait plus du tout recette à l'intérieur du pays. Par contre, l'Iran se réinvente puissance régionale et internationale en parvenant à diffuser son idéologie à l'extérieur de ses frontières. C'est-à-dire qu'il est très possible, tout à fait visible d'ailleurs, notamment suite au conflit en Syrie, de voir que l'Iran est capable de lever des troupes exaltées, ce qui fait vraiment la différence avec le mercenariat saoudien par exemple, justement auprès de populations chiites, voire non chiites. On pense aux brigades Babylone qui ont défendu la République islamique pendant le conflit syrien, où on allait mourir au nom de Jésus pour la République islamique. C'était des brigades de chrétiens, elles sont marginales certes, mais ça montre bien qu'on est dans un anti-takfirisme exacerbé d'une part et que d'autre part on est tout à fait capable de lever des troupes à l'extérieur du pays. Et donc, étant donné qu'il y a une très grande faiblesse, une très grande défection populaire à l'intérieur du pays, la République islamique mise absolument sur son aptitude à diffuser l'idéologie à l'extérieur de ses frontières, et c'est ainsi qu'elle se sent investir une puissance nouvelle.
On y reviendra sur tout cela. Georges Manuel Bruno, je vous passerai la parole pour entamer la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve tous les trois, Georges Manuel Bruno, Amélie, Myriam, Shelly et Azadeh Kian. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique à l'égard de l'Iran à quelques semaines de l'élection américaine. Nous retrouvons nos invités. Amélie Myriam Shelly, sociologue, spécialiste de l'Iran et des islams politiques, chercheuse associée au CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Azadeh Kian, professeure de sociologie et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes, le CREDEF de l'Université de Paris. Et Georges Malbruno, grand reporter pour Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Georges Malbruno, dans le dossier iranien, qu'est-ce qui intéresse Donald Trump ?
Bah, Donald Trump, lui, c'est un agent immobilier. Et donc, il voudrait faire avec l'Iran ce qu'il a fait avec les pays du Golfe, c'est-à-dire un grand accord commercial. D'ailleurs, il a dit, je sais qu'ils veulent un accord, ils seront très riches, etc. Et donc, ce qu'il veut, c'est conclure un accord avec les Iraniens pour que les entreprises américaines puissent aller ensuite inonder le marché iranien, qui est pour le coup un vrai marché. C'est 80 millions d'habitants, une société très consumériste, etc. Simplement, le problème des accords Donald Trump, c'est qu'il veut un accord avec des Iraniens qui soient à ses genoux. Et je vois mal le guide Ali Khamenei, qui est quand même imbibé d'anti-américanisme primaire depuis des décennies, se mettre à genoux devant Donald Trump, même si l'économie iranienne est exsangue aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi que cette élection américaine est un enjeu, comme ça a été dit, de politique intérieure en Iran. Les conservateurs, les ultra-conservateurs, donc les amis du guide Ali Khamenei, accusent les modérés qui font le jeu de Biden d'être des agents de l'étranger. Et eux, si on reprend l'histoire récente de l'Iran, vous avez cet effet de miroir. Lorsqu'il y a un président américain tough guy, un dur, il faut qu'en face, il y ait un dur aussi. Et donc, vous allez avoir en juin prochain, mai ou juin prochain, l'élection présidentielle iranienne. Et si jamais Donald Trump est réélu, on s'achemine vers une configuration où vous aurez en Iran, on l'a déjà eu avec le Parlement qui est aux mains des conservateurs, un guide suprême conservateur, vous aurez un président qui sera conservateur. Et là, la perspective d'un accord me semble difficile, parce que là, on est face à deux blocs quand même foncièrement antagonistes. Il y a eu l'épisode Qassem Soleimani, c'était quand même l'ami personnel du guide suprême. C'était
assassiné le 3 janvier dernier.
Qui incarnait la puissance de l'Iran hors de ses frontières, considérée comme déstabilisatrice par la communauté internationale, etc. Donc, avec un Donald Trump réélu, ça va être quand même très très compliqué, même si les Iraniens sont aujourd'hui aux prises à des difficultés extrêmement forte. Je les vois plutôt se recroqueviller sur eux-mêmes et utiliser leur relais à l'étranger, en Irak et ailleurs, pour forcer les troupes américaines à se retirer. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste l'objectif stratégique de l'Iran aujourd'hui, c'est-à-dire faire partir les États-Unis du Moyen-Orient.
Azadeh Kian, la dynamique transatlantique a été sévèrement mise à mal par la question iranienne. Entre Joe Biden, plus favorable à une diplomatie que Donald Trump, la question de la place des Européens dans ce jeu et dans ces négociations, elle est importante, avec d'un côté peut-être davantage de concertation si Joe Biden était élu, et des Européens qui continueraient d'être mis à l'écart si Trump est lui réélu.
Ben écoutez, les Européens, on sait que les Européens n'ont pas les moyens, si vous voulez, de tenir tête réellement aux États-Unis de Trump. En tout cas, on l'a vu avec les entreprises européennes qui ont quitté l'Iran assez rapidement après les sanctions états-uniennes. On constate néanmoins une volonté, notamment je pense de la part de la France, de renforcer le multilatéralisme. Or Donald Trump, on le sait, est vraiment unilatéraliste, il est vraiment contre les institutions internationales, il veut peut-être signer un contrat avec l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran, mais il est contre tout ce qui est multilatéral. Et là-dessus, les Européens, en particulier la France, est en train d'essayer de peser Mais sur le volet économique, on l'a vu que non, on l'a vu qu'un STEX, qui était un mécanisme d'échange avec l'Iran, n'a pas fonctionné. Donc, on en est là pour le moment. Alors, sachant que les échanges entre l'Union européenne et l'Iran, effectivement, ont beaucoup, beaucoup diminué depuis 2018, depuis la date de la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire. En revanche, les échanges entre l'Iran et l'Allemagne constituent quand même 40% des échanges de l'ensemble de l'Union européenne. Donc l'Allemagne, au plan économique, effectivement, a encore des intérêts en Iran et on sait qu'il y a aussi des échanges techniques, technologiques entre les deux pays. Maintenant, les pays européens, notamment l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, essayent aussi de peser un peu sur l'échiquier politique iranien. On l'a vu récemment avec, ils ont rappelé les ambassadeurs iraniens dans leurs pays respectifs pour protester contre la répression des opposants. Il y a des gestes aussi de ce type pour montrer aux Américains que l'Europe peut peser encore. Bon, à cela s'ajoute le fait que l'Europe, quand même, en particulier la France et la Grande-Bretagne, sont aussi présentes dans le Golfe Persique, au Moyen-Orient. Il faut quand même pas oublier que il n'y a pas que les États-Unis qui ont des bases militaires dans la région, mais aussi la France, qu'il y a aussi la France qui vend des armes ou des armements aux pays du Golfe Persique. Donc, du coup, il y a effectivement aussi un conflit d'intérêts entre les États-Unis et la France, me semble-t-il. Là, sur ce volet-là. Et donc, l'Iran, pour l'Europe, n'a jamais constitué, à ma connaissance, un lieu vraiment stratégique, un pays vraiment stratégique, si on regarde, par exemple, même avant la Révolution et voire après la Révolution. Donc, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je pense que les pays européens ne font pas d'intervention sérieuse et sévère contre, par exemple, les sanctions américaines. Je pense que s'il y avait une volonté politique de la part de l'Europe, en tout cas la Troïka européenne, pour dire niette dès le départ, lorsque Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire et dire on va soutenir nos entreprises, il faut qu'elles restent en Iran. Ils ne l'ont pas fait. Donc c'est normal aussi que les entreprises cherchent leur intérêt et donc sortent de l'Iran, portent des mesures de représailles de la part des États-Unis. Donc l'Europe n'a pas eu réellement, à mon sens, la volonté politique. Et ça, c'est aussi lié au fait que ce qu'on a abordé avant les informations, c'est-à-dire le fait que l'Iran pose problème aussi à l'Europe du fait de ces groupes de proxy dans la région, du fait aussi de son programme nucléaire, son programme de missiles balistiques, etc. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, il me semble que l'Europe ne fait pas non plus confiance aux dirigeants de régime islamique et donc raison pour laquelle ils ne vont pas accepter de, si vous voulez, réellement dire non à la politique états-unienne par rapport à l'Iran. Donc il revient aussi au régime iranien de changer, d'attitude s'ils veulent obtenir un soutien ferme de l'Europe contre les sanctions américaines.
Et l'autre incertitude en ce qui concerne l'Europe, on reviendra sur le changement d'attitude du gouvernement iranien, c'est la question du Brexit. Est-ce qu'il va davantage affecter la dynamique transatlantique et est-ce que, en particulier, le Royaume-Uni va être en mesure de résister aux États-Unis. Avec vous, Amélie Myriam Chelli, j'aimerais qu'on revienne sur l'accord intervenu récemment entre les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et Israël. Est-ce que c'est une bonne chose que ces trois pays soient en mesure de se parler maintenant ? Mais pourquoi finalement avoir rendu public cet accord ? Cette période de l'année et dans ce contexte finalement politique assez sensible, est-ce que c'est un signal envoyé de façon claire ?
Sur le sens que ça peut avoir, je pense qu'il y a aussi à considérer le fait que s'entremêlent des intérêts d'agenda personnel avec la figure de Jared Kushner,
le gendre de Donald Trump
aux Émirats Arabes Unis. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les retombées que ça pourrait avoir vis-à-vis de l'Iran, puisque c'est toujours de l'Iran dont on essaie de parler ici, il me semble qu'elles n'ont pas que du négatif, c'est retombé. La première chose à observer, alors là je vais parler des intérêts de la République islamique, je ne parle pas des intérêts de la paix internationale, mais ce qui risque de se passer, c'est que si on observe suite à cette normalisation des rapports entre les Émirats, le Bahreïn et Israël, une sorte d'élément en chaîne, de phénomène en chaîne, de cascade de signatures d'accords du même type, ce qui risque de se passer, c'est que l'Iran risque de devenir l'ultime l'ultime bastion finalement de la lutte pro-palestinienne, de la défense des Palestiniens, donc viendra redorer son blason d'un point de vue idéologique. Et surtout qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, l'Iran a pu observer combien le conflit syrien a mis en perspective l'anti-chiisme exalté des populations sunnites. Donc ce blason a bien besoin d'être redoré. Hein, c'est-à-dire que ce sera finalement, l'antisionisme pourra devenir un soft power plus fort encore. L'antisionisme est un soft power. Donc là, pour l'instant, qui joue cette carte-là, il y a la Turquie. Il ne faut pas l'oublier que dans le tweet du gouvernement turc suite à la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, il était précisé que la prochaine étape c'était Al-Aqsa. Hein. Donc on a la Turquie qui joue ce rôle-là, mais voilà, l'Iran, du fait qu'il y a en plus une visibilité officielle d'une absence de relations diplomatiques avec Israël, pourrait investir ce rôle. Et la deuxième chose qui me semble intéressante, c'est peut-être qu'on pourrait voir quelque chose de plus réjouissant, c'est-à-dire l'ouverture de ce qu'on appelle un canal diplomatique, un deuxième. C'est-à-dire que jusqu'alors, quand il y avait des soupçons d'éventuelles manœuvres malveillantes entre Israël et ses alliés et l'Iran et ses alliés, le seul canal diplomatique, c'était le sultanat d'Oman. Là, évidemment, s'il y a un deuxième canal diplomatique qui peut s'ouvrir, parce qu'il y a bien évidemment des contacts, des communications entre les Émirats Arabes Unis et l'Iran, ce serait quelque chose de tout à fait profitable pour venir, comment dire, endiguer toute mauvaise interprétation géostratégique qui pourrait éventuellement avoir lieu.
C'est-à-dire, concrètement.
C'est-à-dire que si jamais il y a une manœuvre qui peut laisser supposer à l'un des deux États que l'autre veut procéder à une attaque armée ou autre, eh bien, le recours au canal diplomatique pourrait éventuellement faire en sorte qu'il y ait une communication qui se fasse de sorte à repousser l'échéance d'une offensive, tout simplement.
Georges Malbruno.
Dans ces établissements de relations diplomatiques entre les Émirats surtout et Israël, le Bahreïn aussi, mais c'est plus marginal parce que le Bahreïn c'est microscopique, l'Iran n'est pas concerné. Et les Émirats ont rapidement déclaré que le problème c'était pas l'Iran. Les Émirats ont eu l'an dernier, il y a eu des attaques de tankers dans le Golfe, et les Iraniens leur ont fait passer un message très clair. Les Émiriens l'ont déclaré. Les Iraniens ont dit, si vous continuez à jouer ce jeu malsain, l'aéroport de Dubaï, il va disparaître. Et donc les Émirats savent très bien que l'Iran a une capacité de nuisance très forte chez eux, et que voilà, cet accord, c'était un accord. D'abord, il fallait sauver le soldat Trump, hein, parce qu'il est en mauvaise posture. Donc, voilà, on dit succès diplomatique. Ensuite, ça permet aussi, dans l'hypothèse d'un retrait américain du Moyen-Orient dont on parle depuis longtemps, d'avoir en backup Israël pour remplacer les États-Unis. Ça permet aussi d'avoir un front plus large face à la Turquie. Mais l'Iran n'est pas vraiment concerné. Alors évidemment, ils n'ont pas été contents, ils ont protesté, ils ont dit voilà, on va. Mais les Émiriens ne cessent de dire que l'ennemi, ça n'est pas l'Iran, et qu'ils souhaitent une solution négociée, diplomatique avec l'Iran. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, une solution négociée passera inéluctablement par un partage de la sécurité dans ces eaux du Golfe Persique. Alors, sous Trump, c'était inconcevable que l'Iran ait un quelconque rôle à jouer. Ça pourrait changer dans l'avenir, donc il faudra en arriver tôt ou tard à une grande négociation entre ces États du Golfe qui sont dépendants des armes occidentales, et l'Iran qui est affaibli intérieurement mais qui sur le front extérieur reste une puissance forte, menaçante, déstabilisatrice si vous voulez. Et donc on en est là, et c'est bien la raison pour laquelle ces pays du Golfe, aujourd'hui, en particulier l'Arabie Saoudite, Mohamed bin Salman, le prince héritier, qui a tout misé sur Donald Trump, Mohamed bin Zayed, le dirigeant émirien aussi, sont assez inquiets d'une élection de Joe Biden qui pourrait justement revenir dans le cadre de l'accord nucléaire, mais en tenant compte justement de ce que n'avait pas fait Obama, c'est-à-dire des remarques de ses alliés émiriens et saoudiens, et dire voilà, il faut traiter le balistique, il faut traiter l'influence régionale. Et alors voilà, ce sont un peu les termes de l'équation post-élection américaine.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Un commentaire peut-être, Azadeh-Kian. Après ça, j'aimerais qu'on parle de la Chine très rapidement, oui. Avec cet accord intervenu en juillet dernier de partenariat entre la Chine et l'Iran.
Moi, je voudrais juste quand même dire que récemment, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, si vous écoutez l'intervention de Rouhani, c'est plutôt des attaques contre la politique de Trump et les conséquences que ce retrait a eu sur l'Iran. En revanche, le roi saoudien a consacré son intervention à attaquer la République islamique d'Iran, le prenant pour responsable de tout ce qui ne va pas dans la région, etc. Et donc, je pense que c'est une posture, et ça, c'est pas Ben Salman, c'est pas le prince, hein, c'est le roi. Donc, c'est une posture quand même d'hostilité de la part donc de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, qui me paraît. Qui m'a surprise en réalité, parce que jusque-là, le discours, en tout cas, qu'on entendait, c'était on veut aller vers
désescalade de la tension.
Et là, il sort ce discours vraiment très très offensif par rapport à l'Iran. Est-ce que l'une des raisons de ce discours n'est pas trouvée dans le fait que l'Arabie Saoudite ne peuvent pas faire la paix avec Israël à l'heure actuelle, contrairement aux Émirats Arabes Unis ou à Bahreïn ou au Oman peut-être bientôt, parce que ils ont quand même son gardien des lieux saints et que leur prestige dans le monde musulman serait, pas seulement dans la région mais dans l'ensemble du monde musulman, tarirait si ils font la paix avec Israël, alors même que la colonisation, ne l'oublions pas, basée contre les Palestiniens. Et donc signer une paix entre Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman, qui n'ont jamais été en guerre contre Israël, n'a absolument aucun sens. Mmh. Alors même que les Palestiniens continuent à subir la politique de colonisation du gouvernement israélien. Et donc, comme ça a été dit, dans ce dossier-là, l'Iran commence à, encore une fois et une fois de plus, se positionner comme le seul défenseur de la cause palestinienne. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que même Mahmoud Abbas, même les modérés palestiniens aujourd'hui s'approchent de plus en plus de Hamas, c'est-à-dire des positions de ceux qui disaient que, voilà, on n'est pas d'accord avec cette politique israélienne. Donc, dans l'ensemble, si vous voulez, même si cette, moi je suis d'accord avec Georges Malbruno pour dire que c'était pour sauver le soldat Trump, cet accord de paix entre Israël et les Arabes Unis, mais en même temps, on constate que ça provoque des conséquences, je dirais, inattendues, voire des conséquences peut-être que les États-Unis ne pourront pas contrôler par la suite dans la région. Et ça, comme disait Amélie, ça peut redorer le blason de l'Iran dans le monde sunnite. On sait que les Iraniens étaient quand même très populaires avant 2011 au sein du monde sunnite, mais après leur soutien inconditionnel pour le régime de Bachar al-Assad, ils ont perdu ce soutien. Et aujourd'hui, avec la cause palestinienne, la défense, le seul défenseur de la cause palestinienne, ils sont susceptibles de redevenir quand même populaires dans le monde sunnite.
Alors, on n'aura pas le temps de parler de la Chine. Georges Malbruno, peut-être très rapidement.
Ajouter à ce qu'a dit Azadeh, il ne faut pas oublier non plus la Turquie, hein, qui défend la cause palestinienne. D'ailleurs, qui, avec l'Iran, paradoxe, c'est un pays non arabe. Mais surtout, par rapport à ce que vous disiez sur la réaction véhémente du roi Salman, je crois que ça dénote surtout la fragilité de l'Arabie saoudite à un moment où Riyad a tout misé sur une réélection de Donald Trump et en particulier Mohamed bin Salman. Donald Trump a quand même dit l'autre jour, je lui ai sauvé sa peau, hein, après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Donc je crois qu'il y a une fébrilité saoudienne par rapport à une éventuelle élection de Joe Biden qui pourrait remodeler les cartes et ramener l'Iran dans le jeu régional.
Et des mouvements d'opposition au régime saoudien qui commencent à émerger et qui font parler d'eux. C'est la fin de Géopolitique. Merci à chacun. Georges Malbruno, je rappelle que vous êtes grand reporter pour Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Azadeh-Kian, professeur de sociologie et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes, le CREDEF de l'Université de Paris. Et Amélie Myriam Chély, sociologue, spécialiste de l'Iran et des islams politiques et chercheuse associée au CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Marc Fichet à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. Demain, nous reviendrons reviendrons sur la politique étrangère de Donald Trump sous forme de bilan et la question de savoir si le président américain a ou non changé le monde. À demain.